invité, une playlist. Un mercredi soir sur deux, 20h-21h, tour de piste est sur Principe Actif.
Bonsoir et bienvenue dans cette émission Tour de Piste qui ouvre la 11e saison déjà. Pour cette rentrée des classes, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau la chanteuse et musicienne et bruxelloise Adélis. Je dis à nouveau parce qu'elle était venue en novembre 2016 pour présenter son disque 4 titres baptisé Tactile. On se retrouve tous les deux ce soir et jusqu'à 21h pour parler de son premier album long format. Il s'appelle Toutes les fenêtres et les ruisseaux et dévoile sur 12 chansons une voix au féminin portée par un univers musical qui doit autant à la chanson qu'à l'électro. Bonsoir Adélis.
Bonsoir Laurent.
Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Tour de Piste. J'appellerai Adélaïde, ton nom à l'état civil, Adélaïde Prudhomme. Et il s'est passé 5 ans entre la sortie de Toi, titre de ton 3e mini-album, et la sortie il y a quelques jours, le 1er septembre pour être plus précis, de ce premier disque long format. C'est une période assez longue. Qu'est-ce que tu as fait tout ce temps?
Eh ben, je me suis reconstruite, je crois. J'ai choisi une couleur qui me va très bien, que j'aime, c'est le jaune. Et tout ça, ça a pris du temps, ça a pris à peu près 5 ans, effectivement. Donc voilà, j'ai pris le temps de me remettre à cette couleur.
Et il a commencé à mûrir quand, cet album?
Écoute, en 2019 déjà, j'ai commencé à écrire les chansons. Voilà, c'était vraiment l'objet d'une traversée, d'un voyage, d'une rencontre entre plusieurs éléments, entre la Belgique, entre le Canada, entre la Laponie. Et c'est vraiment à ces endroits-là que je me suis dit « Ah tiens, j'ai vraiment quelque chose à raconter, quelque chose à regarder » parce que je regardais le monde et j'avais très envie de le dire en chanson.
Tu as un peu répondu à ma question, mais quels sont les thèmes, les images, les sentiments qu'ont inspiré ce disque?
Alors, il y a plein de choses. Donc, en fait, c'est marrant parce que ça a commencé à plein d'endroits. Je dirais que des fois, je me dis que ça a commencé à Bruxelles. Des fois, je me dis que ça a commencé en Normandie. Mais on peut partir de l'idée qu'à Bruxelles, en fait, je me suis dit que j'allais écrire une chanson par jour. Donc, les thèmes, en fait, c'était juste la découverte. Qu'est-ce que tous les matins, je regarde? Qu'est-ce que l'univers m'envoie? Pour que ça m'inspire. Alors, c'est plein de petits détails, plein de choses. Par exemple, j'étais en vélo, j'étais dans le quartier des affaires. Alors, un matin, j'ai vu un type en costard-cravate et ça m'a inspiré la chanson Lundi Matin, par exemple. J'ai vu une araignée et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant l'historique de l'araignée. Alors, moi, j'aime bien aussi fouiller, c'est-à-dire, bah tiens, l'araignée, c'est quoi le symbole? C'est quoi, sociologiquement, c'est quoi l'araignée, etc. Donc, je suis partie très loin et j'en ai fait carrément un hymne féministe, voilà, donc je suis partie là. Et puis évidemment, tout ce qui est sur le réchauffement climatique, l'eau, moi c'est ce qui me passionne vraiment, l'eau, et juste une goutte d'eau, on la regarde pas, mais une goutte d'eau, c'est fascinant.
Et alors musicalement, quel aspect tu voulais lui donner à cet album?
Musicalement, tu as dit?
Musicalement,
ouais,
oui.
Alors je voulais quelque chose d'assez dansant, parce qu'en fait, je pensais déjà à le mettre sur scène, en fait, merci, je pensais déjà à l'incarner. Donc en fait, j'avais besoin que ce soit quelque chose d'assez dansant, dans le sens rythmé et organique aussi. Donc quelque chose d'assez électro, donc quelque chose aussi avec lequel je pouvais emporter une clé ou je ne sais pas, un ordinateur et partir avec. Donc je pouvais pas, j'avais pas envie de travailler avec un orchestre par exemple. Tu vois, j'avais vraiment envie d'aller fouiller dans des sonorités qui étaient plutôt électro. Donc vraiment, je suis partie de là et j'ai travaillé avec une super réalisatrice qui s'appelle Mélanie Frisoli, alias Mel.
On en parlera en cours d'émission.
Ouais, c'est ça. Et donc vraiment, je suis partie sur cette direction-là et je pense que c'est un pari qu'on a tenu en tout cas.
Et je propose qu'on ouvre la programmation musicale avec un des 12 titres qui composent ce disque. Je te laisse nous en dire quelques mots, Adélis.
Donc c'est Bruxelles les voiles, c'est quand Bruxelles, je suis arrivée justement à Bruxelles. J'ai dévalé du côté de la gare du Nord avec mon vélo direction le canal. Et je me souviens de cette terre qui arrivait dans mes cheveux. Et je me souviens aussi des petites fenêtres du quartier, au niveau du quartier Saint-Gilles qui m'ont vraiment fascinée. Parce qu'à chaque endroit, tout est un peu... Il y a des tulles, c'est un peu fermé, mais on voit des petits chiens, on voit des petites orchidées. Et moi, j'aime bien regarder ce qu'il y a un peu derrière les fenêtres. Alors, c'est une chanson là-dessus. Je te crois, dans les tours glacées du nord, je me vois. Tu me dis que je suis arc-en-ciel à chaque fois, et dans tous les angles morts de chez toi.
Bruxelles, Bruxelles, je pars en vélo, je danse sur la selle, comme l'avion tout là-haut. Bruxelles, Bruxelles, zigzag et cours d'eau, quand tu m'appelles, je t'aime un peu trop. Je voudrais te connaître sous tes voiles, je voudrais regarder sous la toile. Je voudrais être lune des éclaircies dans ton ciel qui passe du jaune au gris. Bruxelles, Bruxelles, je pars en vélo, je danse sur la selle comme l'avion tout là-haut. Bruxelles, Bruxelles, zigzag et cours d'eau, quand tu m'appelles, je t'aime un peu trop.
Celle d'Adélis qui est à mes côtés ce soir dans l'émission Tour de Piste et qui a sorti le 1er septembre son premier album long format. Ça marque quel cap dans le parcours d'un artiste, la sortie d'un disque long format ?
Je pense que ça marque un endroit de... Enfin, je me sens crédible, je sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, je me sens crédible, je pense que je l'étais avant, mais je me sens, on va dire, debout, à ma place. Après, c'est une étape, voilà, c'est certainement pas... pas la fin, c'est vraiment presque que le début finalement, même s'il y a eu des années de travail auparavant, mais je crois que en fait ça devient sérieux quoi. Il y a un truc sérieux mais sans se prendre au sérieux, mais la chose devient sérieuse quoi, et ça c'est cool.
Et alors t'es passé par le conservatoire, je connais un peu ta personnalité Adélaïde, t'as besoin de beaucoup de liberté, le conservatoire est parfois un peu rigoriste, il l'était encore plus il y a quelques années. Qu'est-ce que t'as gardé de cette expérience au conservatoire qui t'a servi pour la création de ce disque ?
Écoute, déjà j'ai eu la chance quand même d'avoir envie d'être chanteuse d'opéra en fait, parce que du coup ça m'a donné vraiment une technique vraiment vocale qui était hyper chouette. Et du coup, aujourd'hui, je peux toujours en bénéficier dans les concerts. Donc c'est hyper, pour moi, c'était vraiment ce que j'ai gardé, quoi.
Et c'est pas un exercice périlleux, toi qui as fait du chant lyrique, d'adapter le chant lyrique à ce qu'on appelle la chanson populaire, la pop ?
Bah, je crois que ça s'adapte pas, je pense que c'est deux mondes. Vraiment.
Deux mondes complètement.
Ah ouais, moi quand je te parle de technique, je te parle de respiration, je te parle de placement de voix, et c'est vrai que j'ai plus du tout une pratique lyrique, mais en tout cas j'ai essayé de me formater à ça, et puis ça n'a pas du tout marché, c'est pas du tout mon monde d'ailleurs, même si je suis hyper, admirative des chanteuses d'opéra, mais c'est, pour moi c'est de la virtuosité, c'est moins de la création que de la virtuosité, et moi j'avais envie de création dans ma vie. Et donc du coup, oui, effectivement, c'est un exercice périlleux de passer de l'un à l'autre, mais là n'était pas l'idée. En fait, c'est autre chose.
Est-ce qu'il a fallu que désapprendre ce que tu avais appris au conservatoire ou pas du tout ou...
Alors, oui. Alors ça, je pense que là, tu parlais de rigorité, de rigor, de rigueur. La rigueur est très importante, effectivement, pour mener à bien un projet quel qu'il soit. Mais il y a, je pense, une attitude... justement cette espèce de formatage en fait. Et je pense que pour faire vraiment ce qu'on a envie de faire, il faut se déformater de quelque chose. Il faut juste sentir en soi ce qui se passe, qu'est-ce qui bouillonne, qu'est-ce qui vit, en même temps tout en étant conscient de ce qui se passe à l'extérieur et pouvoir proposer quelque chose sans être trop entrechoqué par tout, par l'extérieur justement. Enfin, proposer quelque chose de singulier qu'on va porter, qu'on va aimer, qu'on va jouer, qu'on va défendre. Ça c'est... Voilà.
Alors c'est la musique ou les textes qui arrivent en premier pour l'écriture d'une chanson ?
Moi je crois que là c'est le sens, donc c'est les paroles, parce que je te dis, je me baladais et j'avais besoin que les choses soient senties au niveau du sens, donc c'est venu comme ça, mais je crois que la musique elle arrive juste à côté, quoi, parce que tu vois, je parlais de lundi matin d'un mec commercial, bah, forcément t'as envie de composer un rythmique, un gimmick hyper automatique. Je me suis dit ça, j'ai vu un mec, j'ai fait ah, et dans ma tête, il y avait déjà cette mélodie-là, tu vois. Donc il y avait vraiment les deux qui sont corrélés.
Et on va faire une deuxième pause musicale avec une artiste que tu aimes beaucoup qui s'appelle Camille. Le titre s'appelle Quand je marche. Elle a en commun, entre autres, avec toi, un rapport au corps dans la manière de s'exprimer. Je te laisse nous dire là aussi, je t'écoute sur Camille Adelaide.
Au niveau du rapport au corps, comme tu dis, bah, en tout cas, elle est très proche de l'invisible, elle est très proche de ce qui n'est pas de l'ordre du social. Enfin, en tout cas, pour moi, elle va toucher à un endroit qui est à elle, quoi. Et qui, je pense, est à la fois à elle et en même temps, nous relie tous. Enfin, voilà, tout ce qui est vibration, tout ce qui est onde, tout ce qu'elle fait des mandalas, des chants, etc. Je pense qu'elle a une capacité à relier les autres grâce au chant et grâce, justement, au mouvement de son corps, sûrement. Moi, c'est un peu différent parce que j'utilise vraiment la danse. Je pense que Camille, peut-être elle danse. J'ai pas trop suivi. Peut-être qu'elle y a de moins. Oui, si, elle dansait beaucoup, etc. Mais c'est vrai que, on a une approche différente. Mais en tout cas, je respecte énormément ça, son travail.
Je marche quand je dors quand je chante, je m'abandonne quand je marche droit. Quand je chante nu. Et quand j'aime, je n'aime que toi. Quand j'y pense, je ne dors plus. Je suis ici. Je suis. Je ne me moquerai
chiens. Et puis la pluie. Quand tu pars, je reste ici. Je m'abandonne et je
Les fans auront reconnu Camille, Quand je marche, choix de mon invité de ce soir, Adélaïde. J'en profite, ma chère Adélaïde, pour te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as écouté pendant la période de gestation de l'album. Quels autres artistes tu as écouté?
Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'écoute pas énormément de musique quand je dois justement en écrire. Parce que je sens que c'est pas là que ça se passe. Enfin, en tout cas, j'ai besoin d'une certaine liberté. Et il faut savoir que dès que j'entends une musique, elle me reste dans la tête pendant une semaine, deux semaines... Ça m'arrive même au réveil. C'est surtout qu'au réveil, quand je regarde une vidéo ou une émission, en général, j'essaie de choisir ce que j'écoute parce que sinon, ça me reste dans la tête. Sinon, on avait parlé, en tout cas, avec ma réalisatrice. On était partie sur des influences diverses, tu vois. Billie Eilish, on avait vraiment cette idée-là qui venait de sortir un album super. Björk, évidemment. Moi, j'adore le Klopelgag, qui est une artiste québécoise, qui est une chanteuse québécoise qui fait des choses incroyables. Donc, on est parti un peu sur des univers un peu hybrides et pour essayer vraiment de trouver une piste, en fait, pour réaliser cet album.
Tu disais tout à l'heure que t'écoutes pas de musique, t'écoutes peu de musique et encore moins quand tu composes et quand tu écris. Il y a un besoin de faire le vide.
Pour moi, ouais.
De se laisser remplir par autre chose.
Complètement. Beaucoup de disponibilité, de solitude, d'attention à ce qui peut arriver. Après, des fois, quand on se concentre trop sur est-ce qu'il y a quelque chose qui vient, et en fait, il n'y a rien qui vient. Enfin, je crois que c'est. Moi, les chansons, elles me viennent quand je vis aussi. Enfin, quand je suis dans la vie, des fois, ça m'arrive d'être en voiture, même si c'est un peu dangereux, mais je mets mon dictaphone et je suis au volant et je chante parce qu'elle est arrivée là, la chanson. Ah, oh, il y a un truc qui m'intéresse vachement. Puis le jour, j'étais avec une copine, elle a dit un truc et puis ça m'a donné envie de faire une chanson. Et je dis, attends, je m'arrête deux secondes, je compose ma chanson. Voilà, on était face à la mer, donc c'était hyper propice. Et moi, c'est un peu des choses qui viennent comme ça. Ça n'arrive pas forcément à la table. Je crois que le moment à la table, c'est le moment où, d'ailleurs, ça va m'arriver la semaine prochaine, où je défriche tout ce que j'ai pu... J'ai pu me nourrir ces derniers mois de textes, de musique. Donc, il faut être prêt à recevoir ce qu'on a. Et je pense qu'on a beaucoup de musique en nous, en fait. Enfin, on n'est jamais vraiment vide. Enfin, toutes les influences, enfin, on est bardé d'influences déjà. Enfin, moi, je suis déjà hyper remplie. Donc, c'est après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi.
Alors, tu as fait le choix de jouer seul sur scène, en tout cas, entre autres. C'est un choix qui s'est fait comment et pourquoi?
Alors,
toi qui avais eu des expériences en groupe auparavant.
Oui, alors je crois qu'effectivement il y avait une envie de, je pense, de défi, de se dire bon bah vas-y, je suis capable d'eux. Je pense qu'il y a un côté très, on appelle ça d'empouvoirment, d'envie de, bah ouais, de c'est ça, d'assurer en étant seule, et ça parlait d'une traversée solitaire, donc ça avait du sens en fait. Enfin, ça a du sens que je sois seule, et puis pour plein de raisons pratiques que j'avais pas envie de gérer un groupe, j'avais pas envie d'être la maman d'un groupe. Enfin, moi, j'ai travaillé avec des gens, c'était pas forcément simple à ce niveau-là. Il fallait quand même faire tout un travail de gestionnaire il y avait une charge mentale énorme. Donc, moi, c'était hors de question que je fasse ça tant que j'ai pas une grosse production qui me suit, enfin, une production qui me suit. Aujourd'hui, j'ai une autre production, donc peut-être les choses vont changer, mais là, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Là, pour l'instant, je vais continuer à jouer comme ça et puis on verra comment les choses vont évoluer.
Alors, tu as beaucoup tourné à l'étranger. Quel impact ont eu ces tournées dans d'autres pays?
Ça dépend des endroits. Il y a des endroits avec des publics assez marrants. En Belgique, par exemple, des endroits qui sont très, très chaleureux. Au Québec aussi, on a l'impression qu'on est la tête d'affiche quand on va jouer. Enfin, j'ai ce souvenir-là au Cabaret Lion d'Or à Montréal. C'était en première partie, personne ne me connaît. Et j'ai eu une espèce d'ovation. Et c'est drôle, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Donc, il y avait vraiment une grande chaleur. Et puis, je crois que, en fait, là, pour te dire, ce qui fait évoluer mon show, c'est le fait de le répéter beaucoup. Là, cet été, j'étais à Avignon, donc j'ai fait une vingtaine de dates d'affilée. Donc, ça a été très salvateur. Et puis, entre-temps, j'ai voyagé. J'étais en Estonie. Je suis partie une semaine, justement, pour faire le vide. toute seule. Et là, juste après, j'ai rejoué deux dates. Et c'est justement pendant ces deux dates où je me suis dit waouh, là j'ai monté un step. Parce que je crois qu'il y avait. J'ai ouvert un, je sais pas, un canal, j'en sais rien, qui a fait que j'ai l'impression qu'il y a encore plus de liberté aujourd'hui qu'il y avait il y a deux mois, quoi. Donc je crois que c'est aussi les voyages, ouais, les voyages hors de, pas forcément liés à la musique d'ailleurs, des voyages où je me redécouvre, où je redécouvre le monde, voilà, j'ai besoin de ça.
Il est enregistré où cet album ?
Alors c'est drôle, je l'ai enregistré à Bruxelles, et en fait je l'ai enregistré à distance, parce que c'était l'après-Covid, parce que Mel, en fait, elle habite à Montréal, et à cette époque-là, je crois que je pouvais pas aller à Montréal, il y avait une histoire comme ça. Et du coup, on a vraiment enregistré à distance, qui était dingo. En fait, elle faisait les prods, elle m'envoyait les prods, je disais oui, non, tous les modifs, etc. Et moi, je plaçais vraiment les voix. Donc, pour la petite histoire, j'ai vraiment fait mes voix toute seule. C'est-à-dire, et à chaque fois, Mel, elle me dit, mais waouh, je sais pas comment t'as fait, parce que j'avais personne pour me dire si, ça, comment faut faire. Donc, j'ai vraiment été à la fois... interprète, et en même temps c'est moi qui ai tout coupé, qui ai tout fait derrière, qui choisit les voix, voilà. Et je pense que j'ai choisi les voix à ce moment-là. J'avais une vraie direction artistique que je me suis imposée, et c'est comme ça que le disque est sorti.
Et moi, enfin moi, j'ai toujours eu l'impression que t'aimais vivre entre plusieurs mondes. Pour quelle raison ? Est-ce que t'as besoin d'offrir un autre monde à celui qu'on vit à notre quotidien, de rêver toujours d'un ailleurs et d'y aller ?
Absolument. En fait, je crois que c'est un peu ma bulle, et c'est un peu l'endroit où je crois qui est pour moi très précieux. C'est un endroit qui est pour moi vierge et qui n'est pas en souffrance. C'est un endroit qui est clair, qui fait du bien. Et je crois que c'est cet endroit, c'est cet ailleurs que j'ai envie de chanter dans mes chansons et que j'ai envie d'offrir au monde. Et ça, j'espère que ça le restera. Je crois que c'est la chose que j'ai de plus cher au monde. En fait, c'est ce monde-là, je crois.
On peut parler de refuge ?
C'est un refuge, tout à fait. Et c'est pour ça que je cultive la solitude, parce que c'est souvent en étant seule que j'aspire à ça. Après, je peux le partager avec d'autres, la preuve sur scène. Donc ça, c'est tout mon truc. Mais voilà, je sens que, par exemple, la vie en ville, etc., si je ne fais pas attention, je peux être polluée et le perdre un peu. Mais je pense que chacun a cet endroit-là. Je pense que chacun a un endroit, un peu un terrain vierge... qu'il a envie de cultiver ou pas, ou qu'il se cache, ou voilà. Et je pense que c'est lié aussi un peu à l'enfance. Enfin, c'est un peu une vision un peu héritée de ce moment-là.
Benjamin Violet, comment est ta peine ?
J'aurais dû te libérer avant que tu ne me libères, moi. ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
Comment est ta peine de Benjamin Biolay, sur Artiste, sur lequel tu vas nous dire quelques mots aussi, là encore, à Délice.
Oui, alors on s'est rencontrés cet été, j'ai fait une première partie à la Baule, au Dryade Estival. Et c'est vrai que, bon, en fait, moi je ne connais pas du tout l'univers de Benjamin Biolay, je le mettais un peu à côté parce que voilà, ça représentait des choses, ça avait un peu mauvaise presse à un moment donné dans un certain milieu. Et voilà, je l'ai rencontré, j'ai écouté son concert, et moi je suis plutôt bonne publique, je pense. Et puis au-delà de bonne publique, c'est un super musicien. Voilà, donc j'étais surprise et vraiment enchantée de rencontrer cet homme. Voilà, on a un peu discuté. Et je pense que c'est en tout cas un univers qui, moi, la variété comme ça, de prime abord, n'était pas forcément quelque chose vers lequel je vais. Mais je crois que j'ai des écoutilles assez ouvertes. Et vraiment, vraiment je trouve ça intéressant. Et c'est un peu comme ce morceau-là, en particulier, il a un peu fait mon été. Parce que, c'est, je sais pas, ça me rappelait ce moment, il y avait un côté nostalgique. Enfin, je suis rentrée dans la nostalgie de ce truc, je suis rentrée dans son monde, quoi.
Est-ce qu'il y a une nécessité à écrire, à composer, à se produire sur scène pour toi?
Oui, sur scène, ouais, c'est vraiment une nécessité. Après, là, j'écris, ouais, je crois qu'écrire, je crois que c'est la chose la plus nécessaire. Évidemment, ce serait difficile pour moi de ne pas jouer, mais je crois qu'écrire, c'est un truc que j'adore faire. Enfin, écrire, mettre en place des mots, Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais faire de tous ces écrits, parce que j'écris énormément, et je me dis, tiens, peut-être que je vais, peut-être des fois, développer d'autres formats, peut-être des poèmes, peut-être des... Je ne sais pas, des romans, mais partir sur des écritures un peu plus variées, un peu plus différentes de la chanson. En tout cas, qui vont se croiser peut-être. Donc ça, je verrai, ça, peut-être dans les prochains mois, je vais essayer d'avoir des choses un peu, je vais réfléchir à tout ça. Mais oui, écrire. Et puis je crois que quand je joue pas assez, quand je suis pas assez sur scène, je deviens assez ronchon. Ça, je crois que c'est un truc. Par exemple, à Avignon, je jouais tous les jours et c'était ma drogue, mais vraiment. Et quand ça s'est arrêté, j'étais en manque. C'était fou. Donc voilà, quand je joue pas assez, il y a un peu, je suis en manque et... Et je crois que ça développe tellement de choses et qu'on parlait de monde tout à l'heure. Finalement, c'est le seul endroit où ça me permet de vraiment mettre en image, en mouvement mon monde, enfin ce monde que je compose. Et du coup, c'est très très jouissif de pouvoir l'offrir à des gens.
Et alors, tu aimes créer ce que tu racontes. Tu as déjà un peu répondu à ma question tout à l'heure. Ton imaginaire se nourrit de quoi? Alors, du quotidien, bien sûr.
Oui, et puis bah là, c'est vraiment une formule un peu spéciale parce que j'en ai fait carrément, tu vois, un personnage, une égérie du ciré jaune qui se balade à plein d'endroits et qui regarde le monde avec son regard qui n'est ni homme ni femme. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de presque qui rappelle l'enfance sans que ce soit complètement enfantin. Et puis, qui observe un peu le désastre des choses. Enfin, le désastre. On a un monde un peu étrange, un peu désastreux, mais par-dessus tout, elle arrive à voir la beauté. Et enfin, je dis elle à la troisième personne, parce que tu m'appelles Adélaïde, et Adélaïde, c'est elle qui parle d'Adélis. Et ça parle aussi de... Bah, c'est quoi être vivant sans faire part... Enfin, tout en faisant partie d'un... de repères, d'origine, de social, etc. Et qu'est-ce que c'est que trouver sa voie dans cet endroit-là ? C'est-à-dire, tu peux vivre toute ta vie en étant collé à tes origines, à tes trucs, sans te poser la question de tout ça. Mais moi, justement, je me pose la question, voilà, je suis blanche, je suis française, j'ai tel grand-parent, tel machin, c'est quoi tout ça ? Et qu'est-ce que c'est ma liberté là-dedans ? Qu'est-ce qui nous rapproche tous ? Parce que finalement, voilà, qu'est-ce que j'ai de commun avec un mec qui vit dans les Comores, tu vois ? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai en commun ? Et c'est un peu ce que j'essaie de toucher. Je me dis, c'est quoi qui nous relie ? Et ce monde que je propose, qui est assez aéré, etc., je sais pas, je me dis qu'on a tous un endroit comme ça.
Alors, Belgique, Normandie, Québec, c'est souvent au nord que tu mets le cap. Adélis, ça veut dire lumière en norvégien. Qu'est-ce qui te plaît tant dans le nord ? Est-ce qu'il y a une poésie de la grisaille qui te séduit particulièrement ? Ou est-ce parce que c'est l'endroit d'où tu viens
Ah, moi j'adore la grille en fait. Enfin, non, en vrai je déteste, mais tu sais, ce qu'on déteste, on l'aime aussi. Il y a un truc un peu bizarre. Et aussi parce que j'aime bien la peinture et je crois que le jaune, le gris, j'aime bien le côté point jaune sur le gris, ça me fascine. Et puis que j'aime bien quand il fait pas beau parce que ça me donne envie de bosser. Ça me donne envie de bosser, ça me donne envie d'écrire, ça me donne envie de. Je crois que je pourrais pas vivre dans le sud, quoi. Il fait toujours chaud, toujours beau, c'est déprimant.
Il y a une sorte de détermination quand on habite dans un endroit où il y a peu de lumière. Où on n'a pas envie de sortir. Évreux n'est pas Marseille, par exemple.
Oui, oui, peut-être il y a ça.
Pas être dans l'amusement, dans la fête. Dans...
Oui, je sais pas. Et c'est vrai que je suis une d'Évreux. Donc, moi, je suis quand même. On a beaucoup bougé avec mes parents. Hein, donc, en fait, j'ai pas vu que Évreux dans mon enfance. Mais c'est vrai que je sais pas. Je connais bien le sud de la France. Mais à un moment donné, moi, c'est que des endroits de vacances, quoi. Je pourrais pas vivre. Dans des endroits, il fait tout le temps beau. Je sais pas, curieusement, ça me déprime, tu vois. Je sais pas parce que c'est trop ouvert. Et qu'à un moment donné, je crois que j'ai besoin de resserrer, besoin de travailler. Et puis, ça m'inspire pas l'envie de passer du temps en studio ou d'écrire, quoi.
Alors, qu'est-ce que t'as découvert de toi lors des tournées à l'étranger ?
Je me suis découvert quelqu'un qui improvise, quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui est tout terrain. Je pense que, voilà, je fais des concerts qui ont souvent rien à voir les uns avec les autres. Donc, et puis la langue, enfin la langue, là, en l'occurrence, on parle surtout de la France. Et j'aimerais d'ailleurs tourner ce spectacle et dans d'autres pays qui ne sont pas, francophones. Cet été, à Avignon, c'est marrant, il y avait beaucoup d'étrangers dans la salle. Et ils ont adoré en général parce que je pense que ça leur parle, le langage physique, le langage corporel que j'utilise sur scène. Il y a quelque chose qui va au-delà des paroles. Et enfin, en tout cas, je fais sens avec mon corps, donc du coup, je pense que ça leur parle. Et voilà, j'ai appris, je pense, à m'adapter, j'ai appris à m'amuser, je crois, et à faire avec toutes les situations possibles.
Est-ce qu'on explore différemment la langue française en Belgique et au Canada ?
Alors moi, je pense que, par exemple, au Québec, c'est hyper intéressant, et même au Canada, parce qu'il y a plein de zones francophones, il n'y a pas que le Québec. C'est hyper intéressant parce qu'on croit qu'en France, le français, ça groove pas, que ça n'a pas de style. Et ici, en France, c'est normal, par exemple, on fait un groupe de rock, qu'on va chanter en anglais, souvent. Alors que là-bas, c'est interdit l'anglais, parce que c'est tellement énorme, en fait, la partie anglophone par rapport à la partie francophone, que c'est vraiment politique de garder le français.
C'est une forme de résistance par rapport à
l'Angleterre. Ah, mais Canada. Oui, mais en fait, nous, on ne se rend pas compte, mais on est hyper, je dirais pas colonisé, mais il y a les États-Unis, l'Amérique, enfin voilà, tous les sons américains, etc. Il y a une omniprésence, en fait, de la culture anglophone. Mais nous, on s'en fout parce qu'on est français, on se trouve à la base, la racine francophone. Eux, ce sont des Français qui ont immigré, donc c'est encore autre chose. C'est comme... Évidemment, c'est pas des colonies, mais ils doivent assumer leur légitimité, justement, à tous les domaines de la vie. Donc la musique, ça passe par là. Et donc, du coup, ils font souvent de la folk française, enfin, la folk en français, ou du... Bon, en France aussi, il y a plein de gens qui chantent en français, de la folk, hein, c'est pas... Il n'y a pas que... Mais en tout cas, ça groove. Le français passe super bien Et puis, bah, ils ont l'accent aussi, donc ça change quelque chose, quoi. Et c'est hyper intéressant. En Belgique, j'ai moins vu la différence parce que ça reste très, très proche de la France. Mais il y a des projets musicaux qui sont incroyables. Alors, je ne sais pas si au niveau de la langue, mais je dirais plutôt que c'est au niveau de l'esprit qui sont vraiment très, très curieux et qui, justement, sortent un peu de notre intellectualisme français, justement. Et c'est ça que je vais chercher chez eux aussi, c'est cette espèce de fantaisie, de liberté, de vent de liberté que je trouve moins en France, en tout cas dans les scènes conventionnées.
Et on va écouter un autre de tes choix, c'est l'artiste Babix avec le titre Omaya. Pendant qu'on l'écoute, je te laisse t'installer, ma chère Adélie, tu nous interpréteras deux titres en live avec ton petit clavier dans le studio de la radio Principe Actif. C'est Calme comme un arbre, extrait de ton album, et Toutes les fenêtres et les rubis sous, le titre qui a donné son nom au disque.
Omaya s'endort sous les monts d'araignées. Omaya s'endort sous les monts d'araignées. Dans le vent brûlant. Là où poussaient les roses, là où poussaient les roses, Omaya se repose. Omaya s'endort sous les mandariniers. Omaya s'endort sous les mandariniers. Dans le vent brûlé. Elle est seule, le sait. Que bientôt repousseront les roses, repousseront les roses. Toi, mon assassin, mon enfant, mon amour. À présent que je vole, à présent que tu cours, je n'aurai de cesse, tu le sais. Je n'aurai de cesse de te hanter toujours. Je n'aurai de cesse de te hanter toujours. Et je te condamne à l'amour. Thank you. Maya repose sous le mandarinier.
Et pour poursuivre avec le titre de Babix Omaya, on va retrouver Adélis en live, le temps de deux titres, Calme comme un arbre et toutes les fenêtres et les ruisseaux. Adélis.
Près des grilles d'un parc, je me promenais, j'observais les racines sur le sol dessinées. Elles formaient des montagnes, des collines et des prés. Elles cherchaient leur chemin sous le sol goudronné. Ils étaient là, ces géants déployés, derrière les barrières de sécurité. Immobiles, tranquilles, dociles et discrets, j'entendais peu à peu leur souffle monter. Calme. Comme un arbre, calme, comme un arbre. Sous le bitume, les racines opèrent et créent des réseaux sans aucune frontière, tous reliés par les mêmes ruisseaux. Les arbres se parlent sans dire un mot, maintenus dans leur prison de goudron. Bientôt ils mettront le feu aux poudres. Maintenus dans leur prison de goudron, bientôt ils mettront le feu aux poudres. Calme comme un arbre, calme comme un arbre, calme comme un arbre, calme comme un arbre. Comme un arbre en toi, y a des lignes de lierre, des artères, des veines, tout le sang de l'univers, le chant sourd des collines, le secret des grillons, dans le feu de ta rétine, ta respiration, raccroche-toi à la terre, tes deux jambes, tes deux pieds, y a rien à poursuivre dans ce qui te fait tanguer. Ils résisteront toujours à l'urbain, ils continueront après l'humain. Calme comme un arbre, calme. Comme un arbre, calme, comme un arbre, calme, comme un arbre.
C'était « Calme comme un arbre » d'Adélis dans une version un peu inédite au clavier et au chant dans l'émission Tour de Piste sur les ondes de Principe Actif. On poursuit avec « Toutes les fenêtres et les ruisseaux ».
Sur mon balcon, on voit la mer et le défilé des oiseaux. Sur mon balcon, il y a de l'air. C'est l'été et il fait chaud. Toutes les fenêtres, et les ruisseaux. Toutes les fenêtres, et les ruisseaux. Sur mon balcon, il y a de la poussière. Quand je vois toutes les fumées danser sur mon balcon, c'est l'hiver. Je vois des murs et des reflets. Toutes les fenêtres et les ruisseaux. Toutes les fenêtres et les ruisseaux. J'ai dessiné le soleil, j'ai dessiné les ruisseaux. J'ai dessiné le soleil, j'ai dessiné les oiseaux. Toutes les fenêtres et les ruisseaux. Toutes les fenêtres et les ruisseaux. Sur mon balcon je me perds, sur le carrelage brisé. Sur mon balcon de travers, j'ai envie de m'échapper. Sur mon balcon la tête en l'air, j'ai envie de voyager. Sur mon balcon quand tout est clair, je me repose dans le cendrier. Toutes les fenêtres et les ruisseaux. Toutes les fenêtres et les ruisseaux. J'ai dessiné le soleil, j'ai dessiné les ruisseaux. J'ai dessiné les abeilles, j'ai dessiné les oiseaux.
Merci Adélice pour ces deux titres en live dans l'émission Tour de Piste, donc piano chant, Toutes les fenêtres et les ruisseaux, donc le titre qui a donné son nom à ton premier album long format sorti le 1er septembre. Quel impact la crise sanitaire a eu sur ta manière de travailler, de vivre et sur le regard que tu portes sur le monde ?
L'impact, ça a été surtout, on va dire un peu, bah, tu vois, tu me demandais comment ça se fait qu'il y ait autant de temps entre l'avant et l'après. Je crois que c'est lié aussi au Covid, c'est que bah, tout simplement, j'ai mis du temps à rencontrer des partenaires avec lesquels travailler.
Puis tout était à l'arrêt.
Absolument, et je pense que c'est aussi des questions de prise de risque. J'avais pas envie de sortir mon album dans le vent, et surtout que, en fait, on se rend pas compte, mais enfin, je sais pas si on se rend compte, mais un album, mais c'est une sacrée énergie, c'est un sacré temps. C'est on écrit, on compose, on sort, mais moi, je suis pas du genre à sortir des albums tout le temps parce que je pense qu'il faut vraiment le mûrir, quoi. Il faut vraiment que ça prenne corps, et puis d'autant plus que moi, la scène, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, donc. L'idée, c'est de tourner. Donc, des fois, les tournées, elles durent 2 ans, 3 ans, même plus. Donc, en fait, il ne faut pas se lasser. Donc, voilà, j'ai pris le temps dont j'avais besoin. Là, j'aime toujours cet album. Il est super, même si ça fait longtemps qu'il est là. Je le joue toujours sur scène et il y a plein de dates qui vont arriver. Donc, je suis très heureuse. Donc, je crois que la crise, voilà, elle a un peu étiré les choses.
Alors, sur scène et sur les photos, tu en as parlé là aussi tout à l'heure, pour la promo de l'album, tu es toujours vêtue de jaune, comme ce soir dans le studio. Elles disent quoi, ces tenues jaunes ?
Alors, il y a un ciré jaune. Donc, le ciré, il y a vraiment, je crois que ça m'est venu à Montréal, je sais pas, j'ai repéré un ciré dans la rue, comme ça. J'ai joué avec et j'ai trouvé ça, au tout début, assez fun. Mais c'était vraiment un peu inconscient. Je crois que j'étais attirée par cette couleur parce que, je disais tout à l'heure, c'est une couleur, enfin, en tout cas, ni femme ni homme, il y avait quelque chose un peu de cet ordre qui rappelait un peu à l'enfance, mais surtout, ça avait un lien avec Greta Thunberg. Tu vois, je l'ai vue beaucoup militer, j'ai beaucoup suivi tous ses engagements, etc. Sans que je sois quelqu'un de militant, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et je crois que j'avais envie de revêtir cette espèce de cape de protection et qui reste un phare, en fait, qui reste une couleur qu'on voit un peu partout. En fait, on remarque, moi, à chaque fois qu'il y a un truc jaune, je le repère. C'est comme une espèce de... Je suis attirée, en fait. C'est une couleur qui m'attire direct, quoi. C'est vraiment comme un... Je sais pas, un aimant, quoi. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, tiens, bah... En fait, je me suis pas dit, je vais me mettre en jaune. C'est ça que ça s'est fait totalement naturellement, en fait. C'était logique, ça suivait une envie de me trouver un costume, une envie de... Aussi de ressortir sur le gris, ça c'est sûr, sur l'urbain, parce que je parle beaucoup de l'urbanité, je parle beaucoup des hommes commerciaux qui, en général, la plupart des gens sont habillés en noir, que je trouve que c'est une couleur qui est, dans la ville en tout cas, assez triste sur les habits. Donc voilà, j'aime bien quand il y a plus de couleurs, donc c'est pour ça que je propose ce jaune. Et donc il y a la lumière noble en norvégien, ça c'est le nom de Adélice, ça veut dire ça en norvégien, donc je crois que c'était lié. Et je parle beaucoup de messages d'invisibles, par exemple, je parle d'une femme de ménage, je parle d'une araignée, je parle de choses comme ça. J'avais besoin que ces messages-là ressortent avec cette couleur.
Et on va écouter Pierce Faccini, Your Name No More, un anglais d'origine italienne. Je t'écoute, quelques mots sur ce garçon.
Alors, c'est marrant parce que je ne sais plus où est-ce que j'en ai entendu parler, en fait. Je ne sais plus dans quel... En tout cas, j'avais acheté le CD, je ne l'ai jamais vu en live, d'ailleurs, j'aimerais bien le voir.
Il est passé plusieurs fois à Évreux.
Ah, très bien, mais je n'étais pas là, malheureusement. Et je suis fascinée parce qu'il a à la fois une culture française, enfin, je sais pas exactement son origine, mais il parle français, mais il est aussi italien, et il travaille avec beaucoup d'instrumentistes, je dirais, traditionnels. Enfin, son approche est très, très intéressante. Enfin, moi, c'est la musique, à chaque fois, en fait, que je fais un concert, mon technicien son et les techniciens son d'accueil me demandent quelle musique j'ai envie d'avant. Et en général, je leur dis, bah, Pierce Faccini.
Song. song. Your name is no name, your name no more. Your claim is no claim, your claim is war. Your claim is no claim, your claim is war. Take up your arms, raise the alarm. Your claim is no claim, your claim is war. Blood around, blood will flow. Suffering souls, suffer no more. The coin will spin, the face will turn. Suffering souls, no more burn. Suffering souls will march to war. Hear the bombs, hear the bullets fly. Suffering souls, take no more your lives. Your name no more.
Facchini, You Name Is No More, un des choix de mon invité de ce soir, Adélis, qui vient nous parler de son premier album long format. Comment et pourquoi t'as fait le choix de l'électronique, puisque tu chantes par moments sur des bandes préenregistrées?
Alors, au début, je me disais quelle histoire, enfin jamais je ferais ça. Par exemple, chanter sur des bandes électroniques, pour moi, c'était vraiment de l'ordre du karaoké, surtout que je viens un peu du conservatoire... Voilà, de la musique un peu savante. Mais je pense que presque, c'est bizarre à dire pour quelqu'un qui chante, mais la musique était secondaire. C'est-à-dire, évidemment, elle est importante, mais ce que je raconte est plus important. Donc c'est comme si, pour moi, c'était comme ça. J'avais besoin d'un socle musical qui n'était pas forcément réalisé en live. C'était pas forcément ça, moi, qui m'intéressait. Je n'avais pas besoin d'avoir un band pour avoir de la musique. Parce que je ne dirais pas ce que je fais, c'est électro. On peut dire, oui, c'est des chansons électro, oui, c'est vrai que ça sonne électro. Mais je pense que je parle de sens, en fait. Enfin, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est le sens, c'est cette histoire autour du jaune, cette histoire de poésie de l'urbain, de l'humain, du corps, du vivant. Enfin, moi, c'est plutôt une espèce d'ode à la liberté, presque. Tu vois, il y a une chanson qui parle d'orgasme, à la fin, la montée des eaux. Enfin, moi, je parle vraiment de ce que je vis, de ce que je vois. Et je fais corps avec, et les bandes électro, ça me permettait de pouvoir danser dessus. Quand je dis danser, j'étais plutôt en mouvement. Je fais pas des chorégraphies de dingue, c'est plutôt, on va dire que, par exemple, quand je suis sur un lac gelé, bah, je peux pas faire semblant d'être sur un lac gelé, donc j'y vais, quoi. Enfin, je veux dire, au niveau des lumières, on voit un lac, etc. Donc on travaille vraiment le tableau, en fait. On travaille le visuel, et moi, c'est très important que mon corps fasse danse avec. Et pour moi, l'électro, c'était parfait. Il suffisait d'appuyer sur un bouton et d'avoir comme un décor qui s'installait, sauf que c'est un décor musical.
Alors, on se crée un personnage sur scène. Qu'est-ce qui différencie Adélis d'Adélaïde Prudhomme, ton nom à l'état civil?
Eh bien, écoute, je pense qu'Adélaïde, c'est une bonne gestionnaire. Enfin, du moins, elle est au taquet. Adélis, on la voit sur scène, on la voit, elle fait plein d'autres choses, évidemment. Je pense que Adélaïde est beaucoup plus complexe qu'Adélis, puisqu'Adélaïde, elle a d'autres manières d'exister, elle n'est pas que en Adélis. Adélis, elle sait ce qu'elle fait, elle est sur sa scène, et elle est en jaune, et voilà. Et Adélaïde, des fois elle est en jaune, elle n'est pas en jaune, et puis c'est elle qui fait avancer la chose, c'est elle qui fait. C'est elle qui fait avancer les choses. Donc, Adélaïde, elle est très importante pour Adélis.
Alors, c'est l'artiste Mel, M-E-2-L, hein, dont tu parlais tout à l'heure, qui a coproduit Toutes les fenêtres et les ruisseaux. On peut la présenter rapidement et parler des touches qu'elle a amenées sur ce disque?
Oui, absolument. Alors, je l'ai rencontrée à Montréal grâce à un manager québécois, je crois que c'était en 2019. Elle avait fait les mix des premières pré-prod que j'avais faites toute seule. Alors là, Franchement, j'ai utilisé mes pré-prod au début, qui étaient vraiment... voilà, je ne suis pas une grande productrice parce que je n'ai pas encore pris le temps vraiment d'apprendre. Et elle, en fait, a une carrière assez dingue, une dizaine d'années, je crois, voire plus, en tant que chanteuse de ses chansons. Elle a commencé à 19 ans et puis elle a croisé des gens comme Manu Solo, les Têtes Raides. Enfin, elle était vraiment dans toute cette veine un peu du rock français. Et voilà, elle a écumé énormément de dates, d'endroits, et c'est quelqu'un qui a encore un nom. Mais à un moment donné, elle en a eu marre et puis elle a voulu surtout se poser, je crois. Et puis à Montréal, elle est à l'université, elle travaille en fait autour de la musique et elle est très très forte dans son domaine et elle réalise des albums. Donc moi, je l'ai rencontrée, je ne savais pas trop comment on allait collaborer parce qu'en fait, sa musique à elle avant n'est pas du tout ce que moi j'écoute ou ce que mon style. Donc j'étais un peu dubitative au début et puis... on a beaucoup discuté, on s'est montré des choses, etc. Des morceaux, on a fait des idées de maquettes, de sons, etc. Et puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et franchement, j'ai rarement rencontré de quelqu'un aussi pro et aussi... parce qu'en fait, elle m'a dit, moi j'ai tellement eu l'habitude, quand j'étais à ta place, d'attendre des gens, des mails qui venaient pas, des gens qui te répondent 3 mois plus tard, des mix qui arrivent pas, qu'elle était d'une rigueur vraiment qui était très très agréable pour moi parce que... j'avais pas du tout à attendre quoi que ce soit. C'était comme un tapis roulant, travailler avec elle. C'était génial. D'ailleurs, son mail, c'est genre mail turbo quelque chose. Donc voilà, un turbo.
Alors, je te pose pas la question par hasard. C'était important que ce soit une femme qui t'aide à la production. C'est un métier très masculin.
Ah bah j'étais vraiment hyper contente que ce soit une femme parce qu'effectivement, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Après, bon, il y a des milliards de femmes, des milliards d'hommes. Enfin, je veux dire, on est tous très différents. Mais cela dit, j'ai quand même pas mal subi, je pense, sans trop le savoir, des positions de pouvoir un peu masculin, effectivement. Et moi, je me suis, je pense, dévalorisée. Voilà, enfin, c'est une histoire vieille comme le monde. Et je pense que maintenant, je suis assez aguerrie et puis lucide, en fait, sur pas mal de choses. Donc, en fait, maintenant, j'observe. Ça ne m'empêchera pas du tout de travailler avec des hommes, au contraire. Mais je pense que c'est une question de feeling, d'attitude, de respect, de vigilance. Et en fait, je pense qu'au-delà du sexe de la personne, c'est qu'est-ce qui se raconte entre deux personnes. Et moi, j'en suis là aujourd'hui. En tout cas, je suis très ouverte aux rencontres artistiques et... on verra, je pense qu'il n'y aura pas que des femmes, il n'y aura pas que des hommes. Ce sera un mélange de plein de choses, et puis d'oursons, et de girafes, et de personnes non-binaires, et voilà, plein de gens qui ne se définissent même plus par leur genre.
Et alors, a changé quoi pour toi ce disque long format? Je pose aussi bien la question à Adélice qu'à Adélaïde Prudhomme.
Ah bah c'est la concrétisation d'années de travail et de recherche, et de tout un cheminement, en fait. Donc, je pense que c'est poser un jalon, quoi. C'est comme si tu poses, OK, c'est bon, j'ai posé ma brique. Je vais peut-être pouvoir penser à en poser une deuxième à un moment donné. Bon, je pense que c'est plus qu'une brique, parce que sinon, je crois que j'ai pas assez d'années pour construire une maison si un album, c'est une brique. Mais en tout cas, c'est ça, c'est vraiment poser quelque chose dans le paysage, voilà. Et le visage, pour moi, de cette pochette qui a été réalisée par... la photo par une belle qui s'appelle Lara Herbigna et le design a été fait par un graphiste à Rouen qui s'appelle Maxime Prieux du groupe Electrocution. Et j'aime beaucoup cette idée de ce visage et ça pose quelque chose, ça vient imprimer comme une espèce de petite icône d'Adélice au moment de toute fenêtre les ruisseaux. Alors qu'est-ce que sera Adélice dans 6 mois, qu'est-ce qu'elle sera dans 2 ans, je n'ai pas encore la réponse. Mais en tout cas, je suis contente que ça a été posé. Et c'est gravé dans le marbre. Et en fait, c'est un peu bête à dire, mais c'est comme une descendance, quoi. Voilà, c'est un bébé qui est sorti. Bam, il est là, il est pour le monde. On en fera ce qu'on voudra, il sera toujours là. Donc c'est quand même beau, en fait, cette histoire.
Des remerciements tout particuliers à adresser ce soir?
Ah bah, je
aux gens qui t'ont aidé, accompagné sur ce chemin-là.
Bah, je remercie beaucoup ma maman. Parce que, en fait, quand je vais à Évreux, bah, en fait, c'est elle qui a une maison ici. Donc je suis vraiment contente parce que c'est elle qui m'a permis en fait d'être assez souple pour que je puisse aller venir et faire ma vie voilà, et puis qui m'a donné la vie clairement, donc c'est vraiment pas rien. Mon papa aussi qui n'est plus là mais
et qui serait très fier, je pense qu'il doit être très fier là où il est de te
ouais,
voir.
Ouais, je pense qu'il est content
à cet endroit-là.
Et hier, on se baladait pas loin parce qu'il est décédé à Évreux. Donc voilà, donc je pense qu'on l'a visité. Comme dit Amélie Nothomb, elle parle avec les morts. Alors moi, je parle pas avec les morts. Mais moi, je suis contente en tout cas d'avoir eu ce lien avec mon père. Et je suis très heureuse et je le remercie aussi beaucoup. Évidemment, les gens avec qui j'ai collaboré. Donc il y en a plein. Il y a Mel, il y a des gens au Canada, il y a des gens en Belgique. Et puis aujourd'hui, je remercie Claire aussi qui est avec moi. Voilà, Claire Nini qui est fanatique et qui m'a offert un ourson qui chante I'm Singing in the Rain et qui a un caouet jaune avec un parapluie. Donc, je trouve ça hyper mignon. Et je remercie aussi tous les gens qui me suivent sur toutes les plateformes, sur tous les gens qui écoutent, en fait, parce que c'est hyper intéressant de voir vos retours. C'est hyper beau de sentir que cette musique est écoutée. Et j'aime beaucoup quand vous m'envoyez des images jaunes de plein de choses parce que je trouve que ça relie beaucoup tout ça, cette petite couleur antidépresseur.
Eh bien, moi, je te remercie, ma chère Adélaïde, d'avoir été l'invitée de l'émission Tour de Piste ce soir. Ma première émission en tant que papa du jeune Félix, né le 1er mars 2023.
Bravo!
À la maternité d'Évreux. Sa maman et moi en sommes évidemment très heureux. On se quitte avec un dernier extrait de ton album, donc je le rappelle. Hein, ton album qui est sorti le 1er septembre, qui s'appelle Toutes les fenêtres et les ruisseaux, qu'on peut trouver chez
chez les disquaires. Donc, il y a un distributeur physique qui s'appelle Baco Music. Alors, vous pouvez aller sur mon site internet, sur la première page, vous écoutez l'album et vous allez trouver un lien pour pouvoir commander l'album numérique, physique et puis l'écouter sur toutes les plateformes. Donc il suffit juste de cliquer un peu à droite et à gauche.
Et donc on se quitte avec Tornetrask d'Adélis.
Et je te remercie Laurent aussi. Merci Adélaïde. Je t'ai même pas dit merci, mais je te fais un grand grand merci.
Et on se retrouve dans 15 jours à 20h quoi qu'il en soit. Bonne soirée, au revoir.
Je skiais sur un lac, au cœur des volcans. À chaque pas, ça craque dans l'infini blanc. J'étais dans la retenue, les mains qui tremblaient, le vent comme une battue. Je ne savais pas nager. J'étais toute nue à la surface, car j'avais peur qu'elle se casse sur les contours. Je sentais de l'amour, me suis donné à Tornetrask. Je skiais à travers la neige glacée. Je jouais avec la mer, les eaux et les reflets. J'étais toute nue à la surface, car j'avais peur qu'elle se casse sur les contours. Je sentais de l'amour, me suis donné à Tornetrask. J'étais comme une mouche qui traçait des lignes. J'étais un point rouge sur la couche fine. Y avait des rosaces autour des rochers. Je laissais mes traces sur le lac gelé. J'étais toute nue à la surface, car j'avais peur qu'elle se casse sur les contours. Je sentais de l'amour, me suis donné à Tornetrask. Sur le fil de bientôt disparaître, mais à l'intérieur, je venais de naître. Maintenant je fais corps avec les ruisseaux. C'est une belle mort de fondre dans les eaux.